Merci Sylvain. Bonjour à tous. C'est vrai plaisir de voir autant de monde ce matin. Très content de voir cette église remplie. Et c'est vrai, peut-être comme Matthieu, je vais devoir faire qu'un survol aussi de ce que nous dit la génétique sur les origines de l'humanité. Vous serez peut-être aussi également un peu frustrés. Je vous rappelle aussi à la fin de la journée la table ronde où vous aurez l'occasion de poser peut-être certaines de vos questions aux orateurs. Voyez sur cette image une image de la Terre la nuit. On voit les lumières émises par les grandes villes, témoins d'une activité humaine, en tout cas des villes sur notre planète. Et ce qui est sûr, c'est que l'homme, l'humanité, a pu coloniser tous les continents, a eu du succès à se reproduire et eh bien, à aller s'implanter partout où c'était possible sur notre planète. Et une des questions que cherche à répondre la génétique des populations, c'est essayer de mieux comprendre comment cette colonisation, comment cette démographie passée s'est faite, à quel moment est-ce que l'humanité a émergé, comment est-ce que se sont répandus sur la Terre, est-ce qu'ils étaient nombreux. Et pour cela, il y a plusieurs types de données qui peuvent être utilisées, hein. Les premières, ce sont les données paléolithiques, les données basées sur les ossements qu'on retrouve et qui nous permettent de dire que, eh bien, telle ou telle espèce a vécu à telle ou telle période. On peut aussi, en faisant des mesures métriques sur notamment les crânes aussi, voir des ressemblances entre certaines espèces et sous-espèces. On arrive relativement bien à dater aussi les squelettes que l'on retrouve par plusieurs méthodes complètement indépendantes qui donnent généralement des dates qui se ressemblent énormément avec une certaine incertitude. Des données archéologiques, qui sont les données que l'on retrouve liées aux industries, c'est-à-dire tout ce qui est outils, poterie, etc., et qui peuvent nous renseigner sur l'occupation de tel ou tel endroit par des populations. Elle nous renseigne aussi sur les liens qu'il y avait entre les populations, puisqu'on peut voir comment est-ce que certains objets ont été amenés à des distances parfois très lointaines. Et donc, ça nous informe aussi sur cette démographie passée. On peut aussi se baser sur la paléobotanique, est-ce qu'on retrouve de la végétation ancienne pour avoir une idée des ressources qui étaient à disposition pour nos ancêtres. Aussi tout ce qui concerne l'agriculture, on en retrouve les traces. Et puis aussi, ça permet de voir à quelle époque, si on regarde le niveau des océans aussi qui a baissé au dernier maximum glaciaire d'environ 120 mètres, à quelle époque est-ce que des continents ou des régions ont été tout d'un coup disponibles pour la colonisation par nos ancêtres. Les données de la linguistique aussi sont utilisées dans une moindre mesure puisqu'elles dépendent évidemment des traces de l'écriture que nous avons et qui remontent à seulement 6000 ans, mais on peut les utiliser aussi pour voir les relations qu'il y a entre les populations. Et finalement, bien sûr, c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui, les données génétiques qui, depuis quelques décennies, nous informent d'une manière remarquable et particulièrement depuis une dizaine d'années avec l'ère de la génomique sur la diversité au sein de notre espèce, Homo sapiens, et puis, comme on le verra un peu plus tard, si on a des liens, quels sont nos liens avec les autres espèces, avec d'autres espèces ou sous-espèces d'hominidés. Alors, j'aimerais commencer mon exposé par vous donner quelques petites notions rapides de génétique qui seront utiles, et puis ensuite on regardera un petit peu les origines temporelles et géographiques de l'humanité, avec un petit S entre parenthèses pour le suspense, mais on en discutera tout à l'heure. Et puis les liens génétiques potentiels avec d'autres espèces cousines. Et finalement, je vais tenter simplement d'apporter quelques possibles modèles pour essayer de concilier nos connaissances scientifiques actuelles avec l'interprétation possible des textes bibliques, comme l'a remarquablement fait Matthieu dans l'exposé précédemment. Alors, bon, quelques notions rapides, hein, de génétique, vous le savez certainement. Nous avons l'ensemble de notre information génétique qui se trouve dans chacune des cellules de notre corps, chacune de nos cellules, à l'exception des globules rouges. 23 paires de chromosomes. Pour chacun de ces chromosomes, une très très longue chaîne d'ADN, donc cette molécule qui code l'information génétique, cette molécule d'ADN qui est, elle, composée de ce qu'on appelle de nucléotides ou de paires de bases, et qui sont représentées par ces fameuses quatre lettres A, C, G, T. Donc il y en a quatre différentes, et ces lettres mises l'une après l'autre codent en fait l'information génétique. On ne retrouve pas de l'ADN seulement dans les noyaux, il y a d'autres petites organelles qui s'appellent les mitochondries, qui sont responsables de toute la machinerie énergétique dans les cellules, qui elles aussi comprennent des petites boucles d'ADN qui ont été très utilisées, qui sont encore utilisées, très informatives aussi pour répondre à certaines questions. L'ADN mitochondrial est trouvé en bien plus grande quantité que l'ADN qui se trouve dans le noyau, et donc ça aura aussi son importance quand on essaie de retrouver de l'ADN ancien, comme on le verra tout à l'heure. Donc l'ensemble de ces chromosomes de notre génome est appelé, l'ensemble de ces chromosomes est appelé génome, et donc nous sommes maintenant vraiment dans l'ère de la génomique où on est capable de séquencer d'avoir toute l'information de notre génome depuis quelques années, le génome de l'homme d'Homo sapiens et bien sûr le génome de beaucoup d'autres espèces. Juste deux chiffres. 3 milliards 200 millions, ça c'est le nombre de ces nucléotides dans notre génome, c'est le nombre de ces lettres, c'est l'information totale, c'est la grandeur de notre génome. C'est énorme, mais en même temps, la grandeur de ce génome ne fait pas l'homme. Je vous donne juste deux exemples. On a ici une espèce de poisson dipneude qui a un génome de 130 milliards de paires de bases. Et puis là, on a une autre espèce d'une liliacée qui est là. Un génome qui fait 150 milliards de paires de bases. Donc, vous voyez que la taille ici ne fait pas l'humain et que, bien sûr, c'est la façon dont l'information est codée, retranscrite en protéines, divers mécanismes très complexes qui font que nous avons, je le suppose ici, une intelligence plus supérieure que ces deux exemples-là. 1,5%, c'est la proportion de notre génome qui, en fait, code pour des protéines. Donc, on a plusieurs partie dans notre génome qui s'appelle des gènes. Chaque gène code pour une protéine, mais ça constitue seulement un petit pourcentage de ce génome. Le reste de notre génome, on commence à mieux un petit peu comprendre. Il a certaines fonctionnalités, mais pour la plupart des séquences d'ADN de notre génome, elles n'ont pas de fonctionnalité du tout. Elles accumulent des mutations qu'on dit neutres, qui n'ont pas d'influence sur notre physiologie. Et ça aussi, c'est important de le savoir, et ça a des conséquences aussi pour notre compréhension de ces données génétiques. Alors, les généticiens, ils utilisent ce qu'on appelle des marqueurs génétiques. Donc, généralement, ils choisissent certaines localisations dans notre génome, certaines séquences particulières qu'on sait être variantes entre les différents humains, entre les différentes populations sur la planète. Alors, il y a beaucoup de types de marqueurs, j'en signale juste un. On peut s'intéresser simplement à un seul type de mutation. Vous avez ici en jaune une deuxième séquence où on a une mutation, donc une de ces paires de bases qui a changé, qui passe d'une lettre à une autre, si vous voulez. Et donc, potentiellement, la protéine qui va décoller peut être modifiée, mais pas forcément. On peut avoir exactement la même protéine avec des mutations, ça dépend où ces mutations se passent. On a d'autres types de marqueurs qui sont appelés des microsatellites, qui sont en fait des petites séquences, ici de trois lettres, C, A, T par exemple, qui vont se répéter un très grand nombre de fois, une centaine de fois. Et puis quand ces séquences vont muter, eh bien, il y aura disparition d'un petit motif ou en addition de ces petits motifs. Et on étudie aussi comment c'est le nombre de ces petits motifs chez différentes personnes. Et ça nous donne une idée de la diversité génétique chez ces personnes. Alors, quelles peuvent être les questions abordées et principales à l'aide des données génétiques? Premièrement, on peut, et c'est là le thème de la génomique, on peut s'intéresser à comparer des génomes entre différentes espèces ou entre sous-espèces. Et là, on va essayer de mieux comprendre les liens évolutifs qu'il y a entre ces espèces, tout ce qui concerne les croisements, donc est-ce qu'il y a eu des hybrides entre différentes espèces, est-ce qu'ils ont été féconds, ces hybrides, événements de sélection aussi, donc des adaptations à certains milieux. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, on peut aussi, et là c'est plutôt le domaine de la génétique des populations, s'intéresser à comparer des individus dans une population donnée au sein d'une même espèce. Et pour cela, il faut bien sûr avoir de l'information sur un généralement grand nombre d'individus. On ne peut pas se concentrer sur un seul individu, mais on doit avoir, pour des raisons statistiques, plusieurs dizaines, en tout cas, d'individus par population. Et là, à l'aide d'outils statistiques assez avancés, on peut avoir de l'information sur des événements démographiques qui sont passés il y a très longtemps, parfois des croissances de population, des goulots d'étranglement de la population. Lorsqu'une population est isolée pendant un certain temps, ça va laisser une trace dans la fréquence génétique de certains gènes. Les contacts secondaires entre populations, on peut aussi en retrouver la trace. L'immigration, tout ça est étudié par la génétique des populations. Et puis, il y a deux types d'ADN. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'ADN contemporain, donc c'est l'ADN que l'on peut séquencer chez les personnes vivantes actuellement. Et c'est ce qu'on fait principalement, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, on peut retrouver dans cet ADN les traces d'événements anciens. Il y a un problème avec l'ADN contemporain, l'échantillonnage des populations actuelles, et c'est le suivant. Vous avez sur cette carte l'ensemble des routes que les avions actuellement font reliant toutes les villes, ainsi que toutes les voies maritimes en bleu qui relient toutes les villes. Donc, juste pour vous montrer qu'on vit actuellement dans un monde qui est très connecté, où les humains se déplacent beaucoup, et si vous allez dans un hôpital en Asie, en Afrique, en Europe, et que vous échantillonnez un peu au hasard, vous prenez l'ADN d'une cinquantaine de patients, très probablement, vous n'allez pas échantillonner les personnes qui sont les descendants directs des populations anciennes qui vivaient à cet endroit. Et donc, il faut faire toujours attention, et c'est là la difficulté dans ce domaine, d'échantillonner des populations dont on suppose, dont on sait qu'elles sont descendantes des populations en place. Donc, on ira principalement échantillonner des populations aborigènes, des populations indiennes, de chasseurs-cueilleurs encore actuellement, qui, on fait l'hypothèse, sont les descendants des personnes en place. Bien sûr, en Amérique du Sud, par exemple, tous les Indiens aussi qu'on échantillonne ont une partie de leur génome qui provient d'Europe à cause de la colonisation européenne il y a quelques siècles en arrière, et ça a laissé une trace. Mais on peut, par des méthodes statistiques, enlever ce bruit de fond et se concentrer sur les données vraiment qui sont propres à cette localisation sur la planète. Et puis l'ADN ancien, c'est tout l'ADN qu'on va pouvoir récupérer de vieil ossement. C'est très difficile à en avoir, puisque la molécule d'ADN est extrêmement fragile, elle va se dégrader s'il fait un peu trop chaud, s'il fait un peu trop humide. Et donc, pour retrouver de l'ADN dans des ossements qui sont parfois vieux de 20 000, 30 000, 40 000 ans, eh bien, c'est extrêmement difficile. Il faut déjà avoir de la chance de trouver le petit endroit dans l'ossement où il y a encore de l'ADN. Et puis, il faut surtout des méthodes très particulières qui vont empêcher notamment la contamination. Il faut savoir qu'un os, c'est un peu comme une éponge, hein. Si on a tous de l'ADN sur nos doigts. Quand on touche n'importe quoi, il y a de l'ADN qui se dépose. Les archéologues qui vont manipuler ces ossements, ou qui ont manipulé ces ossements il y a 50 ans quand ils les ont trouvés, ont laissé des traces de leur ADN. Et dans le laboratoire, on va préférentiellement séquencer l'ADN de l'archéologue plutôt que celui vraiment de l'individu en question. Et donc, il faut faire extrêmement attention avec ça. Et maintenant, évidemment, tous les nouveaux ossements qui sont retrouvés ne sont pas du tout touchés, elles sont donc, mais les techniques ont extrêmement évolué dans les 5 à 10 dernières années, et on peut maintenant avoir des génomes entiers d'individus très vieux. Alors, l'homme et les autres espèces, vous avez sans doute déjà vu ces arbres de la vie qui lient toutes les espèces entre elles, avec chaque fois à l'embranchement de deux branches, eh bien un ancêtre commun dont on ne sait généralement pas grand-chose, mais qui ensuite a divergé et a abouti aux espèces que l'on observe actuellement. On a à peu près répertorié un petit peu moins de 2 millions d'espèces actuellement dans le monde. On estime qu'il y en a en tout cas 10 millions, si ce n'est jusqu'à 20 millions d'espèces, donc il y a encore du travail. On peut faire ce genre d'arbres uniquement basé sur des observations métriques, biométriques des squelettes des individus. Mais on peut bien sûr, depuis quelque temps, faire ce même exercice seulement à l'aide de données génétiques, avec l'apparentement des individus par rapport à leur diversité génétique, et il y a une remarquable similitude entre les embranchements, l'arbre qui est obtenu à partir de données génétiques ou celui obtenu à partir de données uniquement, je dirais, morphologiques. Alors bien sûr, quand on montre ce genre d'arbre, on fait évidemment appel à la théorie de l'évolution, donc juste quelques mots là-dessus, généralement pas le temps de développer énormément, mais la théorie de l'évolution biologique, définition, elle a pour objet la compréhension des processus responsables de la diversité biologique qu'on observe présentement et de la diversité biologique passée. Elle n'a pas pour objet, cette théorie, de s'intéresser à l'apparition de la vie. Donc ça, c'est du domaine d'une autre, pas de la théorie de l'évolution. Donc elle n'a pas cet objet-là. Et juste pour mentionner que quand on dit théorie de l'évolution, le mot théorie est utilisé dans son sens scientifique, qui veut vraiment dire que c'est un ensemble d'affirmations interconnectées, cohérentes, testé, basé sur des faits observés qui expliquent un grand nombre d'observations. Pas forcément toutes les observations. Une théorie est appelée à évoluer, elle évolue constamment, mais un grand nombre d'observations. Et puis la théorie de l'évolution, elle est de manière très schématique, assez simple. Elle se base sur deux idées qui sont mises ensemble. Premièrement, il y a génération de diversité dans les génomes. Et ça, on le sait très bien, on l'observe dans les laboratoires chaque jour. On a des mutations qui apparaissent chez les humains à travers les générations. Mais ces mutations s'accumulent graduellement. Et puis, on a de l'autre côté la sélection naturelle qui opère en tout temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les génomes qui ont tout d'un coup une mutation, qui peut-être par hasard leur fournirait un léger avantage de survie ou de reproduction, eh bien, les individus qui portent ce génome pourront peut-être mieux se reproduire, et donc leur génome pourra être passé aux générations suivantes un peu plus fréquemment que d'autres génomes qui n'ont pas cette mutation. De même, si on a une mutation négative, eh bien, on aura un peu l'effet inverse, et la plupart du temps, cette mutation va disparaître parce qu'elle ne sera pas passée aux générations suivantes, mais elle peut survivre aussi sur certaines conditions. Et donc, ces deux idées mises ensemble, c'est la théorie de l'évolution qui base ces deux idées sur... qui utilise cette théorie pour expliquer la diversité observée actuellement. Est-ce qu'il y a filiation de toutes les espèces sur la planète? La réponse à cette question, vraiment du point de vue scientifique, est oui, absolument. On en a des preuves maintenant qui s'accumulent tous les jours. J'aimerais juste vous en présenter quelques-unes par rapport à notre plus proche cousin biologique, qui est le chimpanzé. On a 98,7% de notre ADN qui est exactement identique à celui du chimpanzé. Il y a des petites différences. Et le génome du chimpanzé a été séquencé aussi entièrement il y a quelques années. Et donc on peut vraiment maintenant comparer notre génome à celui du chimpanzé. Et qu'est-ce qu'on a observé de cette comparaison? Vraiment qu'il y a une similarité des séquences génétiques absolument remarquable entre le chimpanzé et nous. On a des séquences qui sont exactement les mêmes au niveau des acides aminés, donc de la séquence de la protéine, et puis bien sûr au niveau du code génétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code génétique, il est redondant. On peut avoir plusieurs séquences différentes qui vont donner exactement la même protéine. Et au niveau du code génétique, malgré cela, on observe des similitudes exactes la plupart du temps. Et donc, si sous un autre hypothèse ou modèle, on croit ou on pense que l'homme a été créé vraiment de nouveau, sans filiation, on ne s'attendrait pas vraiment à ça. L'autre chose qu'on a vu, c'est que l'ordre des gènes sur les chromosomes est également quasi identique. L'ordre des gènes n'a pas vraiment d'importance, les protéines vont être fabriquées de toute façon, mais s'il n'y avait pas filiation, finalement, il n'y aurait aucune raison qu'on observe cela. Un troisième argument, c'est ce qu'on appelle ces pseudogènes. Les pseudogènes, ce sont des gènes qui ont subi des mutations particulières ou nombreuses, de telle sorte qu'ils sont complètement inactifs. Ils ne codent plus pour une protéine, ils ne sont absolument pas utilisés par notre machinerie, mais ce sont des espèces de fossiles génétiques, si vous voulez, mais ils sont là dans notre génome. Et alors, il y a plein, il y a des milliers d'exemples de ces pseudogènes, notamment par exemple celui qui code pour le jaune d'œuf, qu'on retrouve chez les espèces qui pondent des œufs. L'humain placentaire n'utilise pas du tout le jaune d'œuf, donc n'utilise pas du tout ce gène, mais quand on observe par exemple le génome du poulet, on sait exactement où est ce génome, ce gène-là, on retrouve exactement au même endroit dans notre génome ce gène du jaune d'œuf qui est où il y a beaucoup, beaucoup de mutations qui se sont accumulées, qui n'est pas du tout utilisé. Et il est là comme un fossile, un pseudogène. Et entre le chimpanzé et l'homme, évidemment, on retrouve un très, très grand nombre de ces pseudogènes qui sont exactement au même endroit. Et ça, là, l'explication la plus plausible, c'est que ces pseudogènes existaient déjà dans l'ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé, l'ancêtre commun qui a, on pense, existé il y a à peu près 6 millions d'années. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblait, mais c'est l'âge qu'on trouve maintenant, à peu près 6 millions d'années. Et puis, s'il fallait encore un autre argument, il se trouve sur les chromosomes. Nous avons 23 paires de chromosomes, le chimpanzé a 24 paires de chromosomes. Et en fait, le chromosome 2 chez le chimpanzé, c'est en fait deux petits chromosomes. Et notre chromosome 2, on a pu vraiment mettre en évidence qu'il s'agissait d'une fusion des deux petits chromosomes qui s'est passée à un moment donné. Lorsque la branche s'est séparée entre la branche des grands singes et la branche des humains, il y a eu la fusion de ces deux petits chromosomes en un grand. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on trouve exactement les mêmes séquences sur les petits chromosomes ou sur le grand fusionné, et qu'on retrouve exactement l'endroit où la fusion s'est faite, puisqu'il faut savoir qu'à la fin des chromosomes, on a des séquences particulières qu'on sait très bien reconnaître, et on les retrouve exactement dans le chromosome fusionné, ce qu'évidemment on ne s'attendrait pas du tout à voir si on avait une création, je dirais, du génome humain qui ne serait pas du tout affiliée aux autres espèces. Alors, origine géographique de l'humanité. Il y a trois modèles en fait qui sont toujours présents, qui sont largement débattus, mais il y en a un qui a beaucoup plus de support. Le premier modèle, c'est celui de l'origine unique, ou Homo erectus, qui est un de nos prédécesseurs, qui a vécu sur la Terre, émergé il y a 2 millions d'années, a vécu en Afrique, s'est dispersé en Europe, en Asie, on en a des traces. Mais Homo sapiens a émergé en Afrique et puis s'est ensuite dispersé sur les autres continents, sans continuité avec nos prédécesseurs. L'autre modèle, et je vous donnerai des preuves un petit peu tout à l'heure, c'est le même, simplement, il y a eu des contacts secondaires avec l'homme de Néandertal, on va en parler, et puis des autres hommes un petit peu différents, ce qui fait que notre génome est un petit peu mélangé avec ces autres espèces. Le troisième, c'est la théorie dite multirégionale, où l'homme finalement aurait émergé en Europe, en Asie, en Afrique, un peu indépendamment, et puis par des contacts quand même assez fréquents, serait abouti à l'homme moderne, à Homo sapiens, dans différentes région. Il y a peu de support pour ce dernier modèle, et vraiment beaucoup d'arguments pour celui de l'origine unique. Alors, quelques-uns de ces arguments. La population humaine, elle est relativement peu diversifiée. Il y a peu de diversité génétique, et c'est vraiment ce qu'on s'attend si il y a eu une expansion à partir d'un petit groupe d'individus, une expansion assez récente. La diversité la plus forte, elle est observée en Afrique subsaharienne. Vraiment, les populations africaines sont très, très diversifiées génétiquement. Et ça, c'est aussi une indication qu'elles descendent des populations les plus anciennes. Et puis, la diversité génétique, elle décroît quand on s'éloigne de l'Afrique. Et de manière remarquablement linéaire. On peut très bien montrer que ça décroît si on prend des échantillons partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment ce qu'on s'attend s'il y a eu une expansion avec ce qu'on appelle des effets fondateurs, où des petites populations vont emmener seulement une petite partie de la diversité génétique à chaque fois qu'elles vont coloniser ce qu'il y a devant elles. Et donc, on observe vraiment ça. Et puis, j'ai été personnellement impliqué dans pas mal de modélisations qui est assez réaliste en prenant en compte les continents, la végétation, etc. Et toutes nos études ont pu aussi montrer que le modèle de l'origine unique était celui qui était le mieux soutenu par les données. Origine temporelle de l'humanité, maintenant, plus difficile à trouver. Simplement, alors là, je vous donne c'est un petit peu un résumé ici de nos connaissances, d'une part sur les plus vieux squelettes qu'on a retrouvés d'Homo sapiens, donc vraiment d'individus qui étaient exactement comme nous physiquement. En Afrique, on en retrouve presque il y a 200 000 ans, mais qu'on dit Homo sapiens archaïque, c'est une toute petite différence. Et puis ensuite, vraiment, jusque vers il y a 120 000 ans, on a très graduellement vraiment une modernité de l'Homo sapiens, et on retrouve plusieurs squelettes à ces périodes-là, qui attestent vraiment de l'homme moderne. Et puis un événement vers moins 70 000 ans où les hommes sortent d'Afrique, probablement par le sud de la mer Rouge, et vont très rapidement coloniser le sud-est asiatique et l'Australie. On pense vers 70 000 ans, en tout cas, ou plus tôt, il y a 50 000 ans. Et puis une autre sortie majeure d'Afrique il y a 50 000 ans par le nord, où là ils vont aller coloniser l'Asie, et puis il y a 40 000 ans ils vont rentrer en Europe, seulement il y a 40 000 ans, avec le dernier événement majeur qui est la colonisation des Amériques, où là c'est plus récent, il y a environ 15 000 ans. On a découvert récemment que c'était probablement avec trois vagues successives de migration qu'ils ont fait ça. Ça c'est un peu l'état des choses. L'origine temporelle donc est très floue et de toute manière étalée sur une très très longue période, en tout cas c'est ce qu'on peut dire à partir des données qu'on a actuellement. Nos liens avec d'autres espèces, hybridisation avec l'homme de Néandertal, ça c'est un sujet très important de la génomique actuelle. On a maintenant un génome complet de l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal dont on a là une représentation par le National Geographic, je crois, qui a fait ça pour un de ses articles. Les cheveux roux, parce qu'on a retrouvé dans le génome de Néandertal le gène qui code pour la rousseur des cheveux, qui est le même que chez l'homme. Donc la rousseur des cheveux existait apparemment déjà à cette époque-là. L'homme de Néandertal, il y a une comparaison ici avec l'homme moderne, assez différent, beaucoup plus trapu, un crâne aussi un peu différemment, mais finalement, si on l'habillait et on il se promenait dans les rues de Nyon, on ne reconnaîtrait pas forcément que ce n'est pas un individu de notre espèce. Il occupait une large aire géographique en Europe, donc on sait qu'il était présent dans les 200 000 dernières années, il était présent en Europe. Ça, c'est sa répartition il y a 50 000 ans, avec les points rouges qui sont les attestations archéologiques de sa présence dans certains sites en Europe. Et puis l'homme moderne arrive en Europe il y a 40 000 ans, et là, il rencontre le Néandertal. On sait, on a des preuves qu'ils ont cohabité pendant des milliers d'années ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Des grandes questions, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des contacts culturels entre ces deux populations? Est-ce qu'ils étaient interfécons? Grande question. Et si oui, est-ce qu'on a gardé une trace? Est-ce qu'il y a une proportion de notre génome qui provient de ces hommes de Néandertal? C'est en 2006 qu'il y a eu une première sous-partie du génome de Néandertal qui a été publiée. En 2010, on a eu le génome complet basé sur 5 individus différents, donc d'ADN ancien de 5 individus, ce qui a vraiment permis de recouvrir les données, d'avoir quelque chose d'assez robuste. Et là, ce qu'on a découvert, la meilleure, vraiment, l'explication la plus plausible de ce qu'on avait en face des yeux, c'était qu'effectivement, on retrouverait très clairement dans notre génome traces d'hybridisation, mais seulement pour les individus en dehors d'Afrique. C'est estimé qu'il y a environ de 1 à 4% de mélange génétique entre les Néandertals et les hommes modernes. Il y a d'autres hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les données, qui sont beaucoup moins probables, mais possibles quand même. Donc peut-être qu'il faudrait vraiment, pour être certain, attendre un petit peu d'avoir d'autres données qui vont arriver. Mais voilà ce qu'on a découvert. Et puis, un peu plus tard, quelques années plus tard, enfin en 2010 aussi, dans une caverne des montagnes de l'Altaï en Sibérie, on a retrouvé une phalange et une dent d'individus. On a pu extraire leur ADN. Et là, la grande surprise des scientifiques, complètement différent de l'homme moderne, complètement différent du Néandertal également. Donc apparemment, un autre type qui s'est séparé du Néandertal il y a très longtemps, 300 000 ans probablement. On a extrait cet ADN, on l'a comparé à notre génome. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ici également? Des évidences qu'une partie de la population humaine actuelle, des Mélanésiens du nord de l'Australie, des Papous de Nouvelle-Guinée, avaient de 4 à 6% de leur génome qui provenait ressemblable à cette espèce dont on n'a aucune, on ne sait pas à quoi elle ressemblait non plus, hein, mais l'ADN complet se trouve dans chaque cellule, donc on a son ADN complet, même avec une dent ou un petit morceau de phalange. Donc la situation actuelle, en fait, elle est résumée dans cette slide. Apparemment, pour les Eurasiatiques, les Américains, enfin les Américains du Nord et du Sud, à peu près 2,5% de notre génome provient d'un mélange avec d'autres espèces anciennes. Un total de 7,5% pour les Australiens, Nouvelle-Guinée. Et puis très récemment, mais là je ne vais pas en parler, il y a des évidences qui sont encore à étayer qu'en Afrique, certaines populations africaines auraient aussi eu des mélanges avec une espèce vivant en Afrique. Et donc un petit 2%, mais ça c'est encore entre parenthèses. Et probablement que ces pourcentages vont peut-être augmenter dans les années prochaines avec de nouvelles découvertes. Voilà l'état, en tout cas, de nos connaissances actuelles. Alors, petit résumé rapide de ce que je vous ai montré maintenant. L'apparition de l'homme moderne, elle est récente, en tout cas dans une échelle de temps de l'évolution et de la filiation des espèces. Elle est localisée très probablement en Afrique de l'Est, on ne peut pas dire vraiment où. Il n'est pas non plus impossible et impensable que l'espèce humaine ait émergé ailleurs, au Proche-Orient, et qu'ensuite elles aient migré en Afrique et qu'on ne retrouve que les traces de ces Africains. On ne peut pas exclure non plus cela. Il y a un lien évolutif de l'homme avec les autres espèces, il est attesté, je vous ai montré vraiment quelques arguments, mais il y aurait des milliers d'exemples qui attestent vraiment de ce fait. La dispersion des hommes modernes sur les continents a été rapide. Et puis l'hybridation avec d'autres espèces cousines est très probable. Alors, on a d'un côté des théories scientifiques qui se basent sur des observations, des résultats d'expérience, l'élégance mathématique aussi construit nos hypothèses. Elles sont par définition pas infaillibles, hein. Elles vont changer, elles changent au cours du temps. Généralement, on n'élimine pas des théories, mais on les, avec des nouvelles données, on les affine, on les étaye. C'est vraiment comme une carte géographique où on a des zones qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Il y a d'autres zones qui sont un peu plus floues pour le moment. Et puis, au fur et à mesure que des données arrivent, eh bien, on améliore cette cartographie. Et puis, ben, on a de l'autre côté, hein, on a vu ce matin, on a des vérités théologiques qui sont révélées dans l'Écriture, éternelles, infaillibles, qui sont variables de tout temps. Dieu créateur, il s'est révélé en Christ. Mais on a aussi des interprétations humaines de l'Écriture qui, elles, peuvent être ni éternelles ni infaillibles et qui peuvent varier au cours du temps, de l'histoire. On en a beaucoup d'exemples et j'espère que vous avez aussi apprécié l'exposé de ce matin par rapport à ces interprétations possibles. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier tout ça? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Comment le faire? On peut le faire aussi à partir de modèles. Un modèle, qu'est-ce que c'est en science? C'est simplement un ensemble d'idées qui, prises ensemble, contribuent à expliquer certaines données. C'est la façon, en fait, de rendre cohérent un ensemble de données. Et on peut très bien faire un modèle pour essayer de rendre cohérent les données qui proviennent de l'écriture et les données qui proviennent de la science, parce que j'en suis intimement convaincu, comme beaucoup, Dieu s'est révélé non seulement dans sa parole, mais s'est révélé à travers sa création également. Donc nous avons deux livres, si vous voulez, à consulter, et ces deux livres ne peuvent pas être en contradiction. Bien sûr, l'interprétation d'un côté ou de l'autre peut changer, et le but, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut articuler tout ça à travers divers modèles. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment laisser au texte de la Genèse de parler sur leur propre contexte et leur mode de pensée particulier, c'est ce qu'on a abordé ce matin, sans concordisme avec une lecture scientifique de texte qui n'était pas fait pour ça. Et le but de tout ça, c'est vraiment d'étudier comment ces vérités théologiques de la Genèse peuvent être mises en relation avec la compréhension scientifique que nous avons des origines de l'humanité. Alors, j'aimerais vous présenter rapidement, ça sera la fin de mon exposé, cinq modèles qui ont été formulés également dans le livre Adam qui es-tu par Denis Alexander, qui est un immunologiste, qui est le directeur actuel du Faraday Institute for Science and Religion à Cambridge, et qui a formulé ces cinq modèles qui ne sont pas vraiment nouveaux, hein, beaucoup les ont formulés de manière différente, mais qui permettent de poser le cadre, d'ouvrir la discussion, et peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître plutôt dans un modèle ou l'autre. Je vais simplement me permettre de les présenter dans un ordre différent, puisque j'aimerais finir avec celui qui personnellement me convient le mieux, qui est le modèle C. Le modèle D, créationniste vieille terre, qu'est-ce qu'il dit? Le contenu, c'est qu'il y a beaucoup de variantes hein, de ce modèle, mais en gros, c'est que on a une terre ancienne, comme les données scientifiques l'affirment, mais Dieu est souvent intervenu miraculeusement pendant l'histoire évolutive pour créer différentes choses, le code génétique, la première cellule, différentes espèces, les premiers humains, etc. Qu'est-ce que ça implique par rapport aux premiers humains spirituels? Eh bien, c'est que ils ont été créés aussi de nouveau. Donc, il y a vraiment une discontinuité drastique entre les animaux et Adam et Ève, de premiers humains ou groupes d'humains. Et puis, comment est comprise la chute dans ce modèle-là? Ben, c'est simplement le rejet de Dieu qui est localisé aussi historiquement, temporellement, avec les premiers Homo sapiens. Alors, quelques critiques, j'en donnerai chaque fois, mais c'est vraiment un survol et c'est pas exhaustif. Incompatible avec les connaissances actuelles de l'évolution humaine. Et puis, vous l'aurez peut-être aussi apprécié ce matin, une lecture correcte, non concordiste de la Genèse, ne soutient pas forcément cette lecture-là. Il n'y a par exemple pas de mention, apparemment, je me suis fait dire, de miracle dans le récit de la création. Les miracles viennent après le récit. Voilà, très très brièvement. Créationniste jeune terre, c'est généralement ce qu'on entend dans la presse quand on parle de créationniste. Une jeune terre de 10 000 ans environ, créée en 6 jours de 24 heures, pas de mort physique avant la chute. Bien sûr, ça implique une création de novo, qui implique une discontinuité totale, génétique, avec entre tous les êtres vivants. De même, la chute est le rejet de Dieu, localisé temporellement. Complète inadéquation avec l'ensemble des données scientifiques qui montrent évidemment une Terre vieille, un univers vieux, une évolution pendant des millions d'années. Et puis, de nouveau, du point de vue de la lecture de Genèse, une lecture correcte ne soutiendrait pas non plus ce modèle-là. Un autre modèle qui est appelé non historique, où là vraiment, on considère qu'il n'y a aucune connexion entre les narrations théologiques du texte et la narration biologique. Et là, ce que ça veut dire, c'est que Genèse enseigne des vérités éternelles, mais sans aucune contrainte historique. Donc on est dans la définition technique du mythe ou de la parabole. Donc les premiers humains spirituels, pas possible d'y répondre avec ce modèle. Hein. Et puis la chute, eh bien, c'est l'expérience humaine, universelle, de l'éloignement, de la désobéissance à Dieu qu'on a expérimenté tous. Mais de nouveau, le contexte, la connaissance de Dieu, la chute, n'ont aucune, en quoi contexte historique. Et Adam et Ève ne sont évidemment pas des personnages historiques dans ce modèle-là. Donc Matthieu, on a, je pense, touché un peu ce matin dans une description un peu différente, mais c'est le modèle non historique. L'avant-dernier modèle, c'est ce que Alexander définit comme le récit reformulé. Là aussi, Matthieu l'a décrit un peu ce matin. Et là, on est dans un modèle proto-historique, donc qui s'inscrit avant l'histoire écrite, qui inclut peut-être un peu la préhistoire aussi, gradualiste, qui fait référence à des événements qui ont eu lieu, à des temps et des endroits particuliers, qu'on ne connaît pas. Et puis Genèse décrit notre histoire évolutive en des termes compréhensibles, évidemment, pour la culture du Proche-Orient ancien. Et là, premiers humains spirituels, selon ce modèle, auraient eu une conscience graduelle et croissante de la présence de Dieu durant les 200 000 ou 150 000 dernières années. Et ça implique, en fait, que le monothéisme était la première manifestation spirituelle des humains. Ça serait là une implication de ce modèle-là. La chute dans ce modèle-là, eh bien, c'est le rejet de cette conscience de Dieu, un processus historique, mais qui va s'étaler sur une grande période de temps. Et puis la narration théologique de Genèse, eh bien, en fait, une critique qu'on peut faire de ce modèle, c'est qu'elle concerne des événements qui se seraient plutôt réalisés en Afrique à ce moment-là, il y a plus de 100 000 ans, pas au Proche-Orient. Donc il y a, avec ce modèle, un complet détachement finalement du contexte culturel de la Genèse, un détachement aussi des racines juives. Donc ça, c'est la critique aussi qu'on peut faire de ce modèle, mais c'est Voilà, un modèle de travail, certains suivent ce modèle-là. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le modèle précédent, ce modèle-là et le modèle qui vient, et bien sûr, n'a aucun problème, n'a, en totale adéquation aussi avec ce que la science nous apporte, puisque elle inscrit aussi, elle sépare un petit peu enfin la lecture, une certaine compréhension du texte avec l'évolution de nos espèces, le lien entre toutes les espèces. Et puis le dernier modèle, qui est appelé Homo divinus, pas bien sûr dans le sens que l'homme a quelque chose de divin, mais dans le sens que l'homme a tout d'un coup eu conscience du divin. C'est le terme qui est employé par Alexander. Henri Blocher, je sais, préfère le terme Homo theologicus. Mais voilà. Ce modèle est aussi proto-historique, mais il fait vraiment référence à des événements qui ont eu lieu, à des temps et des endroits particuliers, en fait, comme le modèle précédent. Mais ces événements sont localisés dans la culture et la géographie que Genèse apparemment décrit. Donc c'est un modèle historique. Les premiers humains spirituels dans ce modèle, eh bien, Dieu choisit un couple, peut-être un groupe d'humains, on a vu que c'était peut-être possible d'interpréter des textes comme ça. Du néolithique, le néolithique c'est donc la période des 10 000 dernières années, à partir du moment où l'agriculture a commencé et où la population humaine a explosé, je dirais, en termes de nombre d'individus. Un groupe de fermiers néolithiques du Proche-Orient et se révèle à eux de manière particulière. Donc il y a une conscience de Dieu, il y a un appel qui commence à ce moment-là, alors qu'évidemment d'autres humains peuplaient la planète. On a des évidences assez fortes de diverses disciplines. Et donc il y a une véritable naissance de la vie spirituelle authentique qui est à l'origine de la foi juive dans ce modèle-là. Et là, on doit, bien sûr, et Mathieu l'a aussi touché ce matin, faire appel à Adam comme un chef, et là le terme fédéral est utilisé, un chef fédéral de l'humanité, qui aura une responsabilité particulière et qui, par lui, par ce chef fédéral ou par ses premiers hommes, notamment en ce qui concerne la chute et le péché, va se transmettre à tous les autres hommes. Il y a plusieurs arguments, hein, et implications par rapport à ce modèle, j'en présente quelques-unes. Le contexte culturel de la Genèse, évidemment, il ressemble très fortement à celui que les archéologues connaissent très bien du contexte néolithique. On a mention de métaux, d'or, d'onyx, qui sont des éléments qui ne seraient pas du tout utiles à des chasseurs-cueilleurs, qui seraient pré-néolithiques en Afrique. L'agriculture y est suggérée, les instruments de musique. C'est vraiment consistant avec une communauté qui aurait vécu il y a 6-8 000 ans et qui aurait fait de l'agriculture. On a vu que les textes suggèrent que d'autres humains étaient présents. Aussi, le texte de la Genèse le suggère. Les généalogies bibliques, comme on l'a vu, bien pourraient être en accord, même si on a vu elles sont très souples, mais elles peuvent tout à fait être en accord avec ces 6 à 8 000 ans. Et puis juste un petit mot sur le déluge, on n'a pas le temps de l'exprimer, Mathieu en a touché un mot, mais dans ce modèle-là, le déluge, et je crois que c'est assez attesté parce qu'on retrouve trace aussi dans beaucoup, beaucoup d'autres religions, que c'est un événement historique, il fait référence dans ce modèle au sauvetage de ceux qui marchent avec Dieu ou qui marchaient avec Dieu à ce moment-là, c'est un événement localisé qui a permis à Noé, à sa famille, d'être sauvés, de maintenir un stock d'espèces qui leur ont permis de recommencer leur activité de paysan après cet événement. Et puis, probablement, une éradication des ennemis de Dieu qui se trouvaient aussi localisés à ce moment-là. On n'a aucune donnée géologique et génétique qui démontre qu'il y a eu un événement global, une éradication de toutes les espèces. Absolument toutes les données montrent qu'il n'y a pas eu ça. Pour l'homme aussi, on a absolument aucune donnée qui montre qu'il y aurait eu tout d'un coup un goulet d'étranglement avec seulement quelques personnes et puis un départ. Tout montre que, au minimum, les populations humaines ont toujours été de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'individus au cours de son histoire. Voilà ce que je peux en dire. Et puis, avec ce modèle, la chute, eh bien, c'est la désobéissance d'Adam et Ève qui amène à cette mort spirituelle. Et puis là, eh bien, c'est aussi une critique que certains peuvent faire de ce modèle, hein, tout à fait. C'est que, suivant ce modèle, on doit faire l'hypothèse que Adam est vraiment ce chef fédéral de l'humanité et que sa chute implique, d'une manière latérale aussi, vers tous les autres humains qui étaient en Australie, qui étaient en Amérique du Sud à ce moment-là, eh bien, implique aussi une paternité dans cette chute, une paternité dans le péché, et pas uniquement via une descendance biologique, mais on l'a vu aussi ce matin, on peut aussi, les textes ne l'indiquent pas forcément que c'est seulement à travers cette descendance biologique. Voilà ce que j'avais à vous dire, simplement pour terminer que ce sont des modèles qui servent de base à une réflexion. Aucun n'a la prétention d'expliquer tout ce qu'on trouve dans les textes et de pouvoir expliquer tout cela. Il y a peut-être un autre modèle qui expliquera mes données. Ils sont appelés à changer, mais ça fait une base d'étude pour nos réflexions. Je vous remercie pour votre attention.